En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Les anneaux de Saturne fascinent depuis leur découverte au XVIIe siècle. Ils sont constitués de blocs de glace en orbite, ils s'attirent, se dévient, s'entrechoquent sans cesse, mais l'origine de cette structure unique reste mystérieuse. Pour nous aider à y voir plus clair, Aurélien Crida, maître de conférence à l'Université de Nice Sophia Antipolis et à l'Observatoire de la Côte d'Azur, nous livre les dernières connaissances en la matière au cours d'une conférence donnée au Bureau des Longitudes, c'était à l'Institut de France en novembre 2011. Pour suivre au mieux ces explications, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa communication, vous le retrouverez sur le site de Canal Académie. On écoute sans plus tarder Aurélien Crida.
Merci, bonjour à tous. Je tiens à préciser tout d'abord que ces travaux que je vais vous présenter ont été réalisés en grande partie en collaboration avec mon collègue et ami Sébastien Charnoz. Il était d'ailleurs prévu pour tenir cette conférence, mais il ne pouvait pas venir ce jour, donc je le remplace. Donc n'oubliez pas son nom non plus. Je vais donc vous présenter effectivement le système de Saturne, ses caractéristiques, ses propriétés, quelques images fascinantes que nous procure la sonde Cassini. Et puis, je vais vous présenter plusieurs des travaux récents qui ont été publiés à partir de l'année dernière. Et je vais essayer de vous montrer comment tout ça s'agence dans un scénario cohérent pour qu'on comprenne la formation de tout le système de Saturne. Donc c'est vraiment de la science en train de se faire. Certaines parties que je vais vous présenter sont encore contestées. Je pense qu'elles vont finir par être acceptées, mais peut-être que dans 5 ans, tout ça sera faux. Mais en attendant, ça fait une belle histoire. Je vais commencer par une introduction très basique. Saturne est la 6e planète du système solaire à partir du Soleil. Et elle se trouve à 10 unités astronomiques, c'est-à-dire environ 1,5 milliard de kilomètres. Et c'est la 2e en taille après Jupiter. Elle a été explorée par la sonde Voyager in situ en 1980 et en 1981, donc Voyager 1 et Voyager 2. Et puis, il y a la sonde Cassini qui tourne autour de Saturne depuis 2004 et qui nous a permis de faire des progrès fascinants. Notre connaissance de Saturne a commencé quand Galilée a pointé sa lunette astronomique sur cet astre. Et ce qu'il a vu, c'est ce que vous voyez en haut à droite sur la figure. Il a vu un rond qui est central, qui était Saturne, et puis il y avait un truc de chaque côté. Difficile à décrire. D'après lui, c'était deux compagnons de Saturne. Mais il a été extrêmement surpris de constater qu'en 1612, ces deux compagnons ont disparu. Donc il a pensé que Saturne avait mangé ses enfants, conformément à la mythologie. Mais en 1613, ils sont réapparus. Donc Galilée s'est gratté la tête, n'a pas compris. Et en fait, Huygens a été le premier à comprendre et à proposer en 1655 que Saturne est, je cite ces mots, « entouré par un anneau mince et plat qui ne touche nulle part la planète et est incliné sur l'écliptique ». Quelques années plus tard, Hooke a même dessiné et vu en fait l'ombre de l'anneau sur la planète et de la planète sur l'anneau. Donc ça nous permet de bien comprendre effectivement que Saturne est entouré d'un anneau et son aspect changeant au cours du temps s'explique par l'inclinaison de l'anneau par rapport à l'écliptique, comme on le voit sur le schéma central réalisé par Huygens. Quand on est au centre du système, si on voit les anneaux par la tranche, comme dans le cas D par exemple, ben on les voit quasiment pas, voire pas du tout si on a une lunette pas assez précise. Et par contre, quand ils se présentent presque pleine face, ou pas tout à fait, dans le cas H ou A ou K, on voit Saturne entouré d'un large anneau qui peut faire penser à des anses. Continuons dans l'exploration de Saturne historique. En 1675, donc Cassini, qui était le premier président de l'Observatoire de Paris, Jean-Dominique Cassini, dit Cassini 1, puisqu'il y a toute une génération de Cassini. Il a donné son nom à la rue Cassini, ici, à Nice également, puisqu'il vient de là-bas. J'en profite pour faire un peu de publicité pour Nice. Il a remarqué, Cassini, qu'il y avait une division dans les anneaux, qui coupe les anneaux en deux. Il y a l'anneau qu'on appelle A à l'extérieur et B à l'intérieur. C'est des noms très originaux. Et donc, Cassini a compris que c'était plusieurs anneaux concentriques, et pas un anneau solide, et éventuellement même plein d'anneaux concentriques, et puis il y a un endroit où il n'y en a pas. Et il suggère que les anneaux sont peut-être constitués de cailloux qui s'entrechoquent, qui tournent autour de Saturne, mais ce ne serait pas un anneau solide, mais plein de petits cailloux. C'était une idée très intelligente, parce qu'effectivement c'est le cas. Donc le système des anneaux a un diamètre de 272 000 km, pour une épaisseur de l'ordre de 10 à 100 mètres. C'est-à-dire que c'est l'objet le plus fin de l'univers. Il n'y a pas plus fin que ça. Le rapport entre l'épaisseur et la taille, c'est un 10 millionième. Pour obtenir quelque chose d'aussi fin, si vous prenez une feuille de papier A4, il faut la couper dans le sens de l'épaisseur en 4000. Donc vous imaginez bien que quand on voit les anneaux par la tranche depuis la Terre, ils sont à 1,5 milliard de kilomètres et ils font 100 mètres d'épaisseur, on n'a aucune chance de les voir. Ils sont composés de blocs de l'ordre de 10 cm à 10 mètres environ, qui sont de la glace d'eau, quasiment de la glace d'eau pure, à 90% au moins, voire 95% selon certaines analyses spectrographiques. Ça, c'est extraordinaire déjà, parce qu'on ne connaît rien qui est fait uniquement de glace d'eau dans l'univers. Dans le système solaire, les objets qui ont le plus de glace, c'est les comètes. Et les comètes, c'est des boules de neige sale, mais très sale. C'est 50% de cochonneries, de composés carbonés, de roches, de métaux. Et c'est noir, une comète, en fait. Quand on en a observé des noyaux de cométaires, c'est très sombre, comme du charbon. Les anneaux de Saturne, c'est de la glace, presque on pourrait la mettre dans le verre pour se rafraîchir. Donc là, il y a quelque chose qu'il faudra comprendre. Voilà une petite carte plus détaillée des anneaux de Saturne, où vous voyez le schéma du haut, vous représente la profondeur optique des anneaux, c'est-à-dire en gros le contraire de leur transparence. Donc quand la courbe est haute, ça veut dire que les anneaux sont très opaques, et on voit très bien ici un trou qui correspond à une transparence, qui est la division de Cassini, entre l'anneau B et l'anneau A à l'extérieur. Puis on remarque un autre trou un peu plus à l'extérieur, sur lequel on reviendra bientôt. Voici une belle image des anneaux. Pour vous donner une idée de la taille, la Terre est placée ici à l'échelle. Donc effectivement, la Terre rentre largement entre Saturne et l'anneau B, ou la largeur de l'anneau B correspond à peu près au diamètre de la Terre. C'est un système gigantesque, mais de 100 mètres d'épaisseur seulement. C'est-à-dire, on peut faire rentrer 3 à 10 fois les anneaux dans la Tour Eiffel, puisqu'on est à Paris, j'en profite pour un étalon de longueur facile. Voici encore une très belle image des anneaux, sur laquelle on voit bien l'anneau A à l'extérieur, la division de Cassini qui est ici gris, sombre, voire noir, au centre, et à l'intérieur, l'anneau B. Et en arrière-plan, vous voyez une petite lune, un des petits satellites de Saturne qui s'appelle Mimas. Et alors, j'aime beaucoup cette image, parce qu'il se trouve que c'est Mimas qui bloque l'anneau B ici au bord de la division de Cassini. À savoir qu'une particule de l'anneau B qui est ici en orbite autour de Saturne fait exactement 2 tours autour de Saturne pendant que Mimas en fait 1. On appelle ça une résonance de moyen mouvement. Et ça fait que si cette particule avait l'envie de s'éloigner un petit peu vers l'extérieur suite à des rencontres avec d'autres, bon, tout ça brasse, tout ça bouge, ça a envie de s'étaler, eh ben c'est pas possible parce qu'à chaque fois qu'elle a fait 2 tours, paf, elle prend une petite pichenette de la gravitation de Mimas qui la renvoie vers l'intérieur. Et c'est pour ça que la division de Cassini reste ouverte comme ça et qu'elle ne se comble pas doucement. Par contre, on ne sait pas pourquoi l'anneau A ne s'étale pas vers l'intérieur. Ça, c'est un mystère. On ne sait pas. Mais on a au moins compris pourquoi ce bord-là. Donc cette image vous montre déjà des interactions entre les anneaux et les satellites. Je commence déjà à faire mon travail pédagogique, je vais essayer de vous convaincre qu'il y en a plein. Ici, on voit à nouveau l'anneau A, au bord de l'anneau A, l'anneau F, qui est un anneau très fin à l'extérieur de l'anneau A. C'est une image évidemment de la sonde Cassini. Et on remarque ici un petit satellite aussi, qui est juste à l'intérieur de l'anneau F. Le revoilà. Ce satellite s'appelle Pandore. Et vous voyez qu'il perturbe l'anneau F. L'anneau F était bien droit, mais là, il y a comme un coin. C'est tout simplement la gravité de Pandore qui fait que Pandore tourne plus vite autour de Saturne que les particules de l'anneau. Donc ces particules de l'anneau vont croiser Pandore, et en le croisant, hop, elles sont déviées dans leur mouvement. Et c'est ce qu'on observe ici. En plus, Pandore a une orbite légèrement excentrique, légèrement elliptique, ce qui fait que parfois elle se rapproche de l'anneau F et elle s'en éloigne. Et ça va donner ce genre de phénomène où elle lui rentre dedans, véritablement, et elle lui donne des coups. Et elle repousse l'anneau F vers l'intérieur, et puis ensuite, ces perturbations sont étalées par la rotation de l'anneau F. Et il se trouve qu'il n'y a pas que Pandore, il y a aussi Prométhée de l'autre côté de l'anneau F, et donc cet anneau est confiné entre ces deux satellites. Vous avez Pandore d'un côté qui le repousse vers l'extérieur, Prométhée de l'autre côté qui le repousse vers l'intérieur, et du coup, cet anneau reste super fin comme ça, et ça fait cette structure très linéaire qu'on observe encore actuellement. Un autre petit satellite proche de l'anneau A, c'est Atlas, que vous voyez ici en agrandissement, avec sa forme de soucoupe volante un peu, qui est assez originale. Atlas est tout petit, hein, il fait quelque chose comme 36 km de taille, je crois. Et puis là, à l'intérieur de la petite division qu'il y avait dans l'anneau A dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle la division de Encke, il y a un satellite qui s'appelle Pan. Et Pan, sa présence était prédite parce qu'on se doutait qu'il y avait quelque chose qui était responsable de ce trou dans les anneaux. Et ça ne pouvait pas être une résonance. On avait calculé avec les autres satellites, il n'y a pas de résonance, comme pour la division de Cassini. Donc on a cherché à ce qu'il y ait peut-être un satellite carrément dedans, petit. Et il a été trouvé 10 ans après le passage de Voyager sur des images, en les analysant patiemment par Showalter. Et là, l'image que vous avez en haut à droite est une image de la sonde Cassini, dans laquelle on voit Pan quand Cassini était exactement dans le plan des anneaux. Et donc, on voit en fait les anneaux par la tranche, qui font à peu près 100 mètres d'épaisseur, et Pan, qui lui fait plusieurs dizaines de kilomètres, qui dépasse en haut et en bas. Ça vous donne un peu une idée de la taille, de la finesse des anneaux. Et c'est assez extraordinaire d'imaginer qu'on voit comme ça Pan qui dépasse au-dessus et au-dessous des anneaux. Et alors, il y a encore plus extraordinaire, c'est Daphnis. Lui, il est dans le petit trou qu'on voit ici, encore plus fin. Donc, il est encore plus petit que Pan. Il est au milieu de l'anneau A, il creuse son sillon. Et il fait aussi ces vagues énormes pour repousser, il repousse les particules de l'anneau à l'extérieur, à l'intérieur. Exactement comme Pandore repoussait, vous avez montré le petit coin que Pandore fait dans l'anneau F, Pandore repousse l'anneau F, et ben Daphnis repousse le matériel de l'anneau A, à droite, à gauche, et creuse son sillon. Cette image a été prise, vous vous en doutez, quand le soleil était dans le plan des anneaux, c'est-à-dire que toutes les ombres sont rasantes. Et on voit ainsi l'ombre de Daphnis, qui dépasse au-dessus des anneaux, comme Pan, qui se projette sur les anneaux, et on s'aperçoit que ces structures créées par Daphnis sont en relief et ont elles-mêmes une ombre. Ce qui était une surprise extraordinaire. Et on pense que ça fait des espèces de montagnes de 4 km. C'est une image d'une finesse extrême parce que voilà, ce qu'on arrive comme ça à détecter des détails qui font 4 km de haut. La largeur du sillon, c'est une cinquantaine de kilomètres. Donc on arrive à voir vraiment des choses absolument fascinantes dans ces anneaux. Mais il n'y a pas que les anneaux dans Saturne. Et voici une carte plus précise, plus complète de tout le système. Nous avons donc, à partir de Saturne, l'anneau D qui est très ténu, qu'on ne voit quasiment pas et dont je ne vais pas parler. L'anneau C qui est un peu moins ténu, c'est pareil. L'anneau B, dont je vous ai parlé, qui s'arrête, bloqué par la résonance de 1 avec Mimas, pour laisser place à la division de Cassini. Suivi de l'anneau A, qui contient la division de Encke et le satellite Pan. On voit aussi sur cette image l'anneau F, avec Prométhée et Pandore. On le devine à peine, il est très fin. Un peu à l'extérieur encore, on a ici la position de l'orbite de Janus et Épiméthée, que vous voyez en bas à gauche, qui sont deux satellites qui se trouvent partagés la même orbite sur Saturne. C'est un phénomène très amusant. Épiméthée est un peu plus petit que Janus. Et si on continue à s'éloigner, on découvre... j'ai oublié qu'il y avait Atlas aussi, qui est par là. Plus à l'extérieur, nous avons Mimas, que vous voyez en agrandissement ici au centre, avec son gros cratère sur un hémisphère qui lui donne un petit air d'étoile de la mort dans Star Wars. C'est très frappant. À l'extérieur de l'orbite de Mimas, nous avons Encelade, que vous voyez en bas à droite avec, pour comparaison, la taille de la mer du Nord. Donc Encelade fait à peu près la taille de la mer du Nord. Encore plus loin, nous avons Tétis, puis Dionée, puis Rhea. Et il faut aller encore plus loin pour voir Titan, Hyperion, Jappé, Phébé, qui sont d'autres satellites célèbres de Saturne. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout ça. Et d'abord, je vais vous remontrer quelques belles images de tous ces satellites, parce qu'ils sont magnifiques. Vous avez ici Tétis, qui a lui aussi un énorme cratère. C'est une énorme boule. Sur sa surface, c'est essentiellement de la glace, avec quelques cratères. Là, nous avons Dionée, également une surface en glace avec quelques cratères. Et en arrière-plan, c'est pas un photomontage, hein, c'est une vraie photo. En arrière-plan, nous avons Saturne, le globe de Saturne, qui semble énorme par rapport à Dionée. Il est énorme, en fait, c'est pas il tombe, il l'est. Et vous voyez les anneaux vus de profil, qui dépassent, qui apparaissent ici. Et puis, sur le globe de Saturne, on voit l'ombre projetée des anneaux. Donc là, il faut imaginer l'effet géométrique de quelque chose d'annulaire qui se projette sur une sphère par le Soleil qui se trouve à peu près en bas à gauche vers nous. Ben, ça donne ça. On voit là toutes les anneaux plus ou moins denses qui font des ombres plus ou moins intenses sur Saturne. Le résultat est une image magnifique. Et là... nous avons énormément de satellites à la fois. C'était un moment où la sonde Cassini se trouvait à un endroit tel que, en perspective, elle voyait tout plein de satellites. Il y en a 5 sur cette image. On en voit 4 qui sont évidents, il y en a un qui est un peu caché. Alors voilà la réponse. Au premier plan, c'est Rhea, qui est un des plus gros. En arrière-plan, on a Épiméthée, mais en fait, la taille est à peu près à l'échelle par rapport à Rhea. Épiméthée, c'est un petit caillou. Tétis est en arrière-plan par rapport à Rhea. Il est quand même beaucoup plus gros que ça, relativement à Rhea. Nous avons Dionée qui apparaît juste au-dessus du plan des anneaux. Et puis, dans le plan des anneaux, on a Prométhée qui dépasse, et je crois qu'il est ici. Voilà. Il faut y aller le voir. Ça, c'est encore une belle image que nous a offerte la sonde Cassini. Donc, tout ça, c'est magnifique. Et la question qui vient naturellement, c'est d'où ça vient ? Je sais que c'est comme ça que je suis venu à l'astronomie, moi, c'est en observant les étoiles et en observant Saturne, en particulier à la lunette, quand on voit ses anneaux, on veut comprendre. Et, en particulier, il y a plusieurs questions. Quand est-ce que se sont formés ces anneaux et satellites ? Est-ce qu'ils se sont formés en même temps que Saturne ? A priori, c'est ce qui paraît logique, qu'ils étaient toujours là. Mais ça pose des tas de problèmes. Par exemple, depuis le temps, est-ce qu'ils n'auraient pas été pollués par des comètes, des boules de neige sales ou des météorites qui tombent dedans et ils ne seraient plus aussi purs que ça en eau ? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû disparaître et s'étaler parce que c'est quand même une structure fragile ? Donc, est-ce qu'il serait au contraire une structure récente, créée on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, et qui serait provisoire? Mystère. Comment est-ce qu'ils se sont formés? Est-ce que c'est un reste de la formation planétaire? Des restes de quand Saturne s'est formé, avec ses satellites? Ou est-ce que ce serait une comète ou un satellite qui passait par là et qui a été réduit en miettes? Et ce qu'on observe, c'est les miettes? C'est une hypothèse qui était assez populaire, mais qui ne permet pas d'expliquer qu'on ait des miettes que de glace. Il devrait y avoir les miettes de rochers à côté, et de métaux, et de cochonneries. Donc d'où vient cette glace pure? Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, il y a un an, deux ans, on ne savait pas. Toutes ces questions restaient ouvertes, il y avait des hypothèses, mais aucun modèle n'était satisfaisant. Et je vais essayer de vous convaincre, en une demi-heure, que maintenant on a une bien meilleure compréhension de ça, et on propose un scénario cohérent pour former tout ça. Alors voilà le plan que je vais suivre. Je vais d'abord vous parler de l'origine des anneaux, en eux-mêmes, puis de leur évolution, parce qu'il y a le problème de l'âge des anneaux quand même, et enfin, je vais vous montrer que les satellites sont peut-être les enfants des anneaux. Vous allez voir à quel point tout ça finit par s'imbriquer. Mais d'abord, il faut faire un petit préliminaire technique sur les effets de marée. Alors attention, partie technique. Vous savez que la Lune crée les marées sur la Terre, la Lune étire la Terre, et réciproquement d'ailleurs, parce que la gravité de la Lune est plus forte près de la Lune que loin de la Lune. Inversement, la Terre tourne autour de la Lune tourne autour de la Terre, et la force centrifuge est plus forte loin de la Lune vers l'extérieur que près de la Lune vers l'intérieur. Donc, la somme de toutes ces forces, ça a tendance à étirer la Terre en direction de la Lune. Tout simplement parce que la partie de la Terre qui est loin est moins attirée par la Lune que la partie de la Terre qui est près de la Lune, et puis la force centrifuge contrebalance à l'inverse. Le résultat, c'est que la mer est fluide, la Terre, elle est difficile à déformer. Mais la mer, elle est fluide, elle se met à l'équilibre avec ça, et elle prend la forme d'un ballon de rugby pointé vers la Lune. Toujours pointé vers la Lune, avec un léger décalage, mais ne supposons pas. Et du coup, quand on est sur Terre et que la Terre est en train de tourner à l'intérieur de ce ballon de rugby, on voit marée basse, marée haute, deux fois par jour. Maintenant, si on prend deux glaçons en orbite autour d'une planète, comme par hasard, je prends deux glaçons en orbite autour d'une planète, vous allez voir pourquoi. Ces deux glaçons s'attirent mutuellement. C'est la loi de Newton, la gravitation universelle, toute masse attire toute masse. Mais les effets de marée ont tendance à les éloigner. Vous voyez sur le schéma, la planète est rouge au milieu avec une masse M, et à une certaine distance R, on a deux boules de glace de rayon A qui subissent la force de gravité de la planète qui est plus faible pour la boule externe et plus forte pour la boule interne, la force centrifuge due au fait que tout ça est en train de tourner autour de la planète qui est plus forte pour la boule externe que pour la boule interne, et les forces résultantes sont les forces jaunes. C'est exactement les forces de marée qui donnent une forme de ballon de rugby à la Terre. Donc, ces deux glaçons ne vont rester collés l'un à l'autre que à la condition que leur force de gravité mutuelle soit plus forte que les forces de marée qui les éloignent. Et évidemment, si on est dans le vide, tout va bien, c'est la force de gravité qui gagne, si on est loin de tout, ils vont rester collés. Et plus on se rapproche de la planète, plus les effets de marée sont grands. Donc il y a une limite à partir de laquelle les effets de marée dominent et écartent deux objets, et à l'extérieur de laquelle, au contraire, des objets qui flottent vont rester collés. Cette limite s'appelle la limite de Roche, du nom d'Édouard Roche, qui était un savant de Montpellier, et elle est d'autant plus près que les glaçons sont denses. Ça, c'est assez intuitif. Si vous imaginez deux ballons de baudruche à un endroit, leur force de gravité mutuelle, elle est très faible. Eux, ils sont très grands, donc les marées qui les éloignent sont très puissantes et ils ne restent pas collés. Si vous prenez deux boules de pétanque, elles sont très massives, très petites, leur force de gravité mutuelle est très forte, elles restent collées et les marées sont trop faibles. Alors, si on fait le petit calcul pour savoir où est la limite de Roche pour deux glaçons autour de Saturne, eh ben on trouve qu'elle est à 140 000 km de Saturne. Ça tombe bien, c'est justement le bord externe des anneaux. Les anneaux ont un rayon d'environ 140 000 km. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les anneaux sont effectivement des tas de cailloux qui tournent autour de Saturne et ils ne se sont jamais collés les uns avec les autres, c'est les forces de marée. Donc les forces de marée ici sont quelque chose de fondamental dans ce système. C'est elles qui font que les anneaux sont des anneaux. Et la notion de limite de Roche va être aussi fondamentale. Alors pardon pour ce petit aparté technique, j'espère que vous avez bien compris, parce qu'on va s'en resservir. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est les forces de marée gagnent et empêchent les objets de se coller entre eux quand on est à l'intérieur de la limite de Roche. Et quand on est plus loin, c'est l'autogravité des objets qui gagne. Alors voici ce que ça donne concrètement. Ça, c'est une simulation numérique réalisée par mon collègue et ami Hanno Rein. On est ici au-dessus du point bleu qui est en train de tourner autour de Saturne. Et ce qu'on voit, c'est des glaçons. Alors les glaçons qui sont plus près de Saturne tournent plus vite, donc on a l'impression qu'ils descendent sur cette image. Ceux qui sont plus loin tournent moins vite autour de Saturne, donc on a l'impression qu'ils montent. Et nous, on est là et on observe. Et on voit tous ces glaçons qui ont tendance à se regrouper. Mais dès qu'ils se regroupent, c'est étiré par les forces de marée et on voit ces agrégats qui finissent par être arrachés en diagonale et se séparer complètement. C'est une simulation numérique, c'est une simulation numérique en 3D, c'est pas un film, mais c'est très probablement fidèle à ce qui se passe dans les anneaux de Saturne. Les objets tendent à se rapprocher, et puis en fait, c'est les marées qui gagnent. Et donc, on se retrouve avec cet état constant où on a toujours des glaçons qui se tournent autour, qui se touchent, qui s'éloignent, etc. Voilà les anneaux de Saturne vus de haut pour la première fois. Ok, maintenant qu'on a vu ça, je vais un peu vous parler de l'origine des anneaux. Alors, il faut d'abord savoir que les satellites des planètes géantes se forment dans un disque de gaz et de poussière autour de la jeune planète. D'une manière générale, les planètes, elles-mêmes, se forment dans un disque de gaz et de poussière autour d'une jeune étoile, comme sur le schéma orange en haut à droite. Et quand une planète devient assez massive, elle-même s'entoure d'un mini-disque, qu'on voit là en agrandissement, ça c'est des simulations numériques, tout ça, et dans ce mini-disque, on a une mini-formation planétaire qui a lieu, et il y a des satellites qui se forment, qui tournent autour de la planète, et puis à cause du gaz, qui est toujours là, il y a le phénomène de migration planétaire, que j'ai pas le temps de détailler ici, mais je vous demande d'admettre que quand on a un satellite qui tourne autour d'une planète dans un disque de gaz, ou inversement, à plus grande échelle, une planète qui tourne autour d'une étoile dans un disque de gaz, les interactions entre la planète et le gaz, ou entre le satellite et le gaz, font qu'au lieu de tourner bien rond, ils spiralent vers l'intérieur, ils perdent de l'énergie, et ils finissent par tomber sur l'étoile centrale ou la planète centrale. Quand on sait ça, on imagine bien la planète entourée d'un disque de gaz et de poussière, plein de satellites se forment, ils tombent sur la planète régulièrement, et puis à un moment, au bout de 5 millions d'années, tout ce gaz finit par disparaître, et il reste les derniers satellites. Une fois qu'on sait ça, on peut se poser la question de l'effet des marées sur un satellite qui s'approche de Saturne. Cette fois-ci, on n'a plus deux glaçons collés, mais on a un gros glaçon. Mais ce gros glaçon, ce qui le tient ensemble, c'est la gravitation. Parce qu'il faut imaginer un objet gros. Si vous prenez cet objet-là, une bouteille plastique, ou ce micro, ou ce verre, n'importe quoi, ce qui le tient ensemble, c'est pas la gravitation. La preuve, c'est que si je le casse, et que je remets les morceaux l'un à côté de l'autre, ça tient plus. Alors qu'il s'attire toujours. Ce qui le tient ensemble, ce qui lui donne cette forme bizarre, c'est les forces de cohésion du solide. Par contre, la Terre, si je prends un morceau de Terre, que je l'enlève, et que je le lâche, il retombe. Ce qui tient la Terre ensemble, c'est sa propre gravité. Et un satellite, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'approche et que les forces de marée deviennent assez fortes? Il va casser. C'est comme si c'était deux glaçons. S'il passe la limite de roche, le satellite doit être tout simplement disloqué. Bon, c'est assez triste pour lui. Mais maintenant, il faut savoir que si un corps céleste est assez gros, une planète, il va devenir différencié. Vous savez que la Terre a un noyau métallique et un manteau plutôt rocheux, en silicate, moins dense. D'une manière générale, c'est simplement l'effet de la gravité. Les matériaux les plus denses coulent et les moins denses se retrouvent à la surface. Et dans le cas de Titan, on a un noyau qui est en métaux et silicate et un manteau en glace d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un satellite différencié qui s'approche de Saturne? Et bien dans ce cas-là, quand il franchit la limite de roche, c'est son manteau peu dense qui est arraché d'abord. C'est lui qui est le plus sensible aux forces de marée. Vous vous rappelez, vous avez dit que la limite de roche dépend de la densité des objets. Et du coup, ce satellite se trouve avoir une densité moyenne plus forte, et il peut survivre. Et donc voilà le scénario qui a été imaginé par Robin Canup, qui est une chercheuse au Southwest Research Institute à Boulder, au Colorado, aux États-Unis. L'idée, c'est qu'il y a un satellite différencié qui migre et qui se rapproche de Saturne. Quand il franchit la limite de roche, les effets de marée commencent à arracher de la glace de son manteau, et le satellite laisse des morceaux de glace derrière tout en continuant à migrer. À la fin, il arrive avec son noyau de roche et de silicate qui est suffisamment dense, qui n'est pas explosé par les forces de marée, qui tombe dans Saturne, et il reste derrière des morceaux de glace arrachés par les marées. Donc, on se retrouve, ça devrait être le dernier satellite qui est tombé sur Saturne, et Titan, lui, aurait survécu à la migration. Il reste donc un anneau de glace pur, dont la masse est à peu près la masse du manteau de Titan. La masse du manteau de Titan, ça fait quand même 1000 fois plus que les anneaux actuels. Mais on a de la glace pure. Donc, si on fait le bilan de ce modèle de formation des anneaux, ça s'est fait il y a 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire en même temps que la formation du système solaire, lors de la formation de Saturne. Et on se retrouve avec des anneaux qui sont certes en glace, mais trop massifs. Très massifs, même beaucoup trop par rapport à la masse actuelle. Et puis, on n'a aucun satellite entre Titan et les anneaux, puisqu'il y avait celui-là qui est passé, qui a tout balayé. Donc, il va falloir essayer d'expliquer ça. Mais, premier point, modèle de formation des anneaux de la glace avec un satellite différencié. Maintenant, étudions l'évolution des anneaux. La loi de Kepler nous dit que le cube du rayon d'une planète est proportionnel au carré de sa période. Si vous prenez le cas de Mercure, elle fait un tour autour du Soleil en un quart d'année. Le rayon de son orbite, c'est 0,4 unités astronomiques, 0,4 fois le rayon de la Terre. Et 0,25 au carré divisé par 0,4 au cube, ça fait 1. Pour la Terre, elle fait un tour autour du Soleil en un an. Le rayon de son orbite, c'est une unité astronomique par définition. 1 sur 1, ça fait 1. Bon, ok. Pour Jupiter, elle fait un tour en 11,8 années, parce qu'elle est à 5,2 unités astronomiques du Soleil, et que 11,8 au carré sur 5,2 au cube, ça fait 1. C'est la loi de Kepler. Ça veut juste dire que plus on est près, plus on tourne vite. Comme ça, comme sur ce schéma. L'intérieur tourne donc plus vite que l'extérieur. Donc quand deux particules se rencontrent, interagissent, par quelque manière que ce soit, soit un choc physique, soit simplement une interaction gravitationnelle, soit tout ce que vous voulez, de la viscosité pour du gaz, les frottements vont faire que c'est la partie intérieure qui accélère la partie extérieure. Si elle est accélérée, si elle va plus vite, elle va plus loin. Elle est envoyée vers l'extérieur, la force centrifuge augmente. Inversement, la partie intérieure est freinée par l'extérieur et donc elle finit par tomber sur Saturne. Donc, il y a un étalement général. D'une manière générale, quand vous avez un disque en astrophysique, il doit tendre à s'étaler à cause de ça. Bon, donc les anneaux doivent s'étaler. Le problème, c'est que si on fait les calculs avec la viscosité donc qui modèle la rapidité de cette évolution dans les anneaux actuels, ils devraient disparaître en quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Alors avec Julien Salmon et Sébastien Charnoz, on a étudié l'étalement des anneaux. Vous avez là des courbes qui montrent la densité initiale. C'est la densité selon l'axe des Y et la distance à Saturne selon l'axe des X. Et vous avez l'étalement qu'on obtient pour deux viscosités de types différents. Et on voit que celle qui a le trait continu nous permet de garder des anneaux denses pendant beaucoup plus longtemps. En fait, le truc, c'est que plus les anneaux sont denses, plus ils sont visqueux, parce que plus les particules se rencontrent fréquemment. Et ça diminue beaucoup quand les anneaux s'étalent. Et ça diminue même drastiquement, de sorte qu'en fait, quelle que soit la masse initiale des anneaux, on obtient qu'au bout de 5 milliards d'années environ, ils ont la masse actuelle. S'ils étaient plus massifs avant, ils s'étalent plus vite. S'ils étaient moins massifs, ils s'étalent moins vite. Et il y a un moment où ils s'étalent très lentement, parce qu'ils sont assez peu denses, et c'est la situation actuelle. Donc avec ça, on arrive à avoir des anneaux qui survivent, et qui peuvent être très massifs avant, peu importe leur masse en quelque sorte, puisque s'ils étaient plus massifs, ils se seraient étalés plus vite. Donc ça nous réconcilie avec le modèle précédent de formation des anneaux. Donc ça, c'est le résultat de la thèse de Julien Salmon. Maintenant, il se trouve que juste à l'extérieur des anneaux, il y a une poignée de petits satellites que je vous ai montrés tout à l'heure, qui ont des propriétés surprenantes. C'est nos amis Janus, Épiméthée, Prométhée, Pandore et Atlas. D'abord, ils sont un peu sous-denses, avec une densité de seulement 600 kg par mètre cube. 600 kg par mètre cube, c'est moins dense que la glace, c'est de la neige, mais de la neige même pas très bien tassée. Et ils ont la même composition que les anneaux, si on en juge par leur spectre. Ils ont l'air d'être faits essentiellement de glace. Et leur surface semble jeune. Il n'y a pas beaucoup de cratères. Bon. Tout ça, c'est des indices qui ont mis la puce à l'oreille à Sébastien Charnoz. Et parce qu'on a vu aussi que les anneaux s'étalent. Alors quand les anneaux s'étalent, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils vont vers Saturne, la glace est absorbée dans Saturne, c'est facile. Elle tombe, tout simplement. Et qu'est-ce qui est externe ? Quand les anneaux s'étalent vers l'extérieur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive à cette pâte à crêpe qui s'étale, qui tombe de la poêle, puisqu'il s'étale un peu comme de la pâte à crêpe ? À votre avis ? Je vous laisse réfléchir. Les anneaux s'étalent petit à petit, on a des tas de glaçons qui s'éloignent de plus en plus de Saturne. Ils vont finir par aller plus loin. Et qu'est-ce qui se passe plus loin ? Ils ne sont pas éjectés, mais vous vous rappelez cette histoire de limite de Roche qui est à 140 000 km ? Dès qu'ils vont à l'extérieur, ça va devenir des satellites parce que les forces de marée sont plus capables d'empêcher ça. Donc ces blocs de glace doivent s'agglomérer dès qu'ils ont franchi la limite de Roche. Ils s'accrètent et ils vont former des nouveaux petits satellites. Concrètement, on a donc là les anneaux qui s'étalent, selon ce schéma, et ces nouveaux satellites qui se forment tournent encore moins vite que les anneaux. Donc les interactions avec les anneaux ont pour effet de les éloigner encore, parce que les anneaux les accélèrent. Donc voilà ce que ça donne. Ça s'étale, ça forme un satellite qui tourne moins vite et qui s'en va. Voilà un modèle qui semble a priori tout à fait logique. Voilà une simulation numérique de ça. On a donc la courbe représente la densité de surface des anneaux en fonction de la distance à Saturne. Et au-delà de 140 000 km, qui est à peu près au niveau de la figure, on n'a plus une densité de surface d'anneaux, mais on a des satellites qui se forment, dont la masse est liée à la hauteur. La hauteur, selon l'axe du point, définit sa masse, et la position du point par rapport à l'axe des abscisses définit sa distance à Saturne. Donc ça, c'est des petits satellites qui se forment. Et à mesure que les anneaux s'étalent, vous voyez quand on passe de A à B, puis à C, puis à D, la densité des anneaux diminue. Et il y a plein de satellites qui se forment, qui s'éloignent de plus en plus. Quand ils se rapprochent suffisamment, ces satellites, ils vont fusionner. Et donc, on va voir comme ça ces points qui grandissent en masse. Et effectivement, on a des points de plus en plus hauts, de plus en plus loin, de plus en plus massifs. Et ça correspond exactement à la formation de Janus, Épiméthée, Prométhée, Pandore et Atlas. Et si on en croit nos simulations numériques, ils se sont donc formés il y a seulement 100 millions d'années. Ça veut dire que c'est des objets super jeunes à l'échelle du système solaire. Peut-être même les plus jeunes qu'on connaisse. Les planètes se sont formées il y a 4 milliards d'années. La Lune s'est formée probablement 60 à 100 millions d'années après la Terre. Seulement, c'est tout. Les comètes et les astéroïdes, on considère que c'est des objets très primitifs. Ceux-là, ce seraient des lunes tout à fait nouvelles, qui n'étaient pas là du temps des derniers dinosaures. Je vais expliquer que n'importe quel disque s'étale à cause de la rotation keplérienne. Ce qui est à l'intérieur tourne plus vite, donc a tendance à accélérer l'extérieur et à l'éloigner. Et quand le matériel arrive à l'extérieur de la limite de roche, eh ben, il peut s'agglomérer. Spontanément, il va former des agrégats de forme allongée. Et ces agrégats peuvent se rapprocher et fusionner. Et le satellite est repoussé par les anneaux, puisque les anneaux tournent plus vite que le satellite, ils ont tendance à l'accélérer. Inversement, le satellite freine les anneaux et les repousse vers l'intérieur. En général, la force d'étalement des anneaux eux-mêmes est plus forte que la répulsion du satellite, donc ils continuent à s'étaler. Et voilà le résultat d'une simulation numérique. La couleur des anneaux représente leur densité, plus c'est clair, plus c'est dense. Et la taille des boules représente la masse des satellites qui se forment. Vous voyez qu'on a des tas de satellites qui se forment instantanément au début avec une toute petite masse, et puis qui s'éloignent initialement très vite, puis de moins en moins vite à mesure qu'ils s'éloignent des anneaux, puisque l'interaction avec les anneaux faiblit. Et quand deux satellites se rattrapent, ils fusionnent. On a une série de satellites qui se forment comme ça. Ça donne un peu l'impression que les anneaux pondent des satellites, c'est assez joli. Le phénomène s'arrête parce que tous les satellites qui sont à l'extérieur cumulent une force suffisante pour repousser les anneaux un peu à l'intérieur. Et c'est le cas actuellement autour de Saturne. Les anneaux n'atteignent pas la limite de roche à cause de Janus, qui est suffisamment fort pour les bloquer. Mais Janus continue à s'éloigner. Donc dans quelques dizaines de millions d'années, Janus sera trop loin, les anneaux atteindront la limite de roche et le phénomène va recommencer. C'est dommage qu'on ne sera pas là pour voir ça, parce que le résultat, c'est la formation de satellites en direct. Donc on commence à avoir quand même une vision cohérente, un modèle où tout s'imbrique, avec d'abord la formation d'anneaux de glace très massifs à cause d'un satellite différencié qui migre vers Saturne, dont le manteau est arraché par les forces de marée, mais ça fait des anneaux très massifs qu'il y a très longtemps. Ensuite, on a l'idée que les anneaux très massifs peuvent s'étaler assez rapidement jusqu'à maintenant avoir leur masse actuelle, et donc les anneaux peuvent être aussi vieux que le système solaire, et s'ils étaient très massifs avant, justement ça nous arrange, parce que toute la pollution qui a pu tomber dans les anneaux depuis la formation du système solaire s'est trouvée diluée dans énormément de masses de glace. Donc en fait, c'était quasiment insensible. Et maintenant, on a toujours des anneaux assez purs en glace, parce que la pollution aussi est partie, avec quand les anneaux se sont étalés. Et en fait, on a publié ce résultat sur Janus, Épiméthée, Prométhée, Pandore et Atlas avant la publication du résultat de Canup sur la formation des anneaux. Donc nous, on ne savait pas encore d'où venaient les anneaux, on savait juste qu'ils s'étalent actuellement et que donc ça doit donner ça, et à l'échelle de 100 millions d'années, on interprétait bien le lien avec ce système. Et puis en creusant un peu le modèle, on se dit que ça serait tentant d'étendre ça à Mimas, Tétis, Dionée, Rhéa, Encelade. En fait, si on en croit le modèle de Canup, il y avait suffisamment de masse dans les anneaux pour former tous ces satellites. Et si on fait une certaine hypothèse sur l'efficacité de la migration due à Saturne, que je ne vais pas détailler, il y a aussi suffisamment de temps sur l'échelle du système solaire pour éloigner Rhéa, qui est le plus loin là-dedans, de la limite de roche au bord des anneaux jusqu'à sa position actuelle. Donc c'est très tentant, et c'est ce sur quoi on a travaillé l'année dernière, en fait, avec Sébastien Charnoz. Et il se trouve que tous ces satellites-là, donc Mimas, Encelade, Tétis, Dionée, Rhéa, leurs âges sont rangés en ordre croissant. Quand on voit leur position et leur masse, on est capable de savoir depuis combien de temps ça fait qu'ils étaient à la limite de roche. Parce qu'on est capable de remonter les équations en arrière de leur éloignement. Et on trouve qu'ils sont rangés en ordre croissant, le plus vieux et le plus loin. Ça, c'est bien. Parce que si on trouvait par exemple que Rhéa était plus jeune que Tétis, ça voudrait dire que Rhéa avait franchi l'orbite de Tétis. C'était pas possible. Ce simple constat est un argument quand même assez fort en faveur de ce modèle, même si ça pourrait être un hasard. D'autre part, tous ces satellites ont des noyaux rocheux qui sont irréguliers, apparemment, et de la taille du noyau par rapport au satellite est totalement variable d'un satellite à l'autre. Donc ça, c'est très difficile à expliquer en supposant qu'ils sont formés à partir d'une nébuleuse homogène qui s'est condensée. En fait, ce qu'on pense, Ça, c'est la grande idée de Sébastien Charnoz, c'est que ces cœurs rocheux sont des blocs de silicate qui étaient initialement présents dans les anneaux. Il faut imaginer que le satellite qui s'est fait exploser, sa différenciation n'était pas forcément parfaite. Ça ne pouvait pas être du 100% glace et 100% roche en dessous. Il y avait forcément un petit peu de pollution, un petit peu de débris. Et ces objets, ces cailloux, eux, ils étaient capables de résister aux marées puisqu'ils sont plus denses. Donc ils sont un peu regroupés déjà dans les anneaux. Ils ont formé des objets massifs qui n'étaient pas explosés par les marées et qui se sont couverts de glace parce que leur gravité était suffisamment forte et qui ont été éjectés des anneaux et ont formé comme ça les noyaux de ces satellites. Et du coup, c'est un processus qui est totalement stochastique, aléatoire. Soit on forme un gros noyau, soit un petit. Et puis de toute façon, après, on récupère toute la glace qui sort. Et ça nous permettrait d'expliquer comme ça la composition assez bizarre de ces satellites jusqu'à Rhéa. Et en plus, ils sont vraiment peu cratérisés. Vous voyez ici une image de Dionée. Vu le nombre de cratères qu'il y a à sa surface, il y a de fortes chances que ce soit des satellites qui sont bien plus jeunes que Saturne. Si on est capable de dater une planète à la densité de satellites sur sa surface, et là on pense que vraiment Dionée est beaucoup plus jeune que Saturne, donc il aurait fallu attendre que les anneaux s'étalent, qu'ils forment d'abord Rhéa, puis Tétis, enfin Dionée, plus tard encore Encelade, etc. Donc ça joue en faveur de ce modèle, et l'article qui décrit ce modèle a été publié en fait la semaine dernière. Donc c'est tout récent. Je vous montre une belle image d'Encelade et de ses geysers. Encelade, c'est un satellite qui a la propriété d'avoir le pôle sud très très peu caractérisé. Et puis ces rayures ici qu'on voit bien, qu'on appelle les rayures de tigre. Et il se trouve que de ces rayures s'échappent des geysers. C'est une image tout à fait fascinante que nous a procuré la sonde Cassini. En fait, Encelade, donc comme les autres, a un noyau rocheux et un manteau en glace. Et apparemment, sous ce manteau en glace, il y a de l'eau liquide qui s'échappe à forte pression par des craquelures de la couche de glace. Et ça nous donne, en fait, un canon à neige géant. C'est tout simplement un canon à neige, Encelade, parce que vous imaginez de l'eau projetée de façon jet d'eau, quoi, grande vitesse, dans le froid. Ben voilà, c'est les canons à neige qu'on a sur les pistes de ski, c'est la même chose. Ça fait des petites particules de glace, des flocons de neige. Alors, une partie retombe sur Encelade, ce qui fait que sur le pôle sud, en fait, il y a de la neige fraîche. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de traces de cratères. Et puis, une grande partie ne retombe pas sur Encelade. Et cette partie qui ne retombe pas sur Encelade fait cet anneau diffus qu'on voit sur l'image en arrière-plan, là, qui est l'anneau E. On a déjà A, B, C, D, celui-là c'est l'anneau E. Il est diffus et en fait c'est de la neige éjectée par Encelade. La conclusion à laquelle je voulais arriver, et dont j'espère vous avoir convaincu, c'est que les satellites et les anneaux de Saturne sont intrinsèquement liés. En fait, si l'on en croit ce modèle, encore une fois, c'est de la science en train de se construire. Si ça se trouve, quelqu'un prouvera que c'est faux dans pas longtemps. Mais a priori, ça a l'air de tenir. Les anneaux viennent du manteau d'un satellite différencié qui s'était formé et qui a migré dans le disque autour de Saturne jusqu'à ce que les marées éclatent son manteau et l'arrachent et le disposent en glaçons autour de Saturne alors que son noyau, lui, est tombé dans Saturne. Donc les anneaux viennent d'un satellite. Les anneaux s'étalent au cours de tout l'âge du système solaire et ça forme à nouveau une série de satellites. Donc une dizaine de satellites, là, entre les anneaux et Titan, qui seraient tous formés par ce phénomène d'étalement, et au-delà de la limite de Roche, à nouveau accrétion. Donc c'est un système qui est évolutif, et ce, encore maintenant, puisque le processus n'est pas fini. Il est toujours en cours. Il y a toujours des anneaux, il y a toujours des satellites qui sont toujours en train de s'éloigner, et dès que Janus sera assez loin pour ne plus être capable de bloquer les anneaux, le processus va recommencer. Et on va former des nouveaux petits Prométhées, des petits Pandores qui vont continuer à s'éloigner, puis peut-être avec un peu de chance, vont finir par fusionner pour former un Épiméthée moyen, voire un Janus un peu plus gros, et dans quelques milliards d'années, à nouveau un Mimas. Voilà les références bibliographiques de ces travaux. Donc ce que je vais présenter dans la partie 1 sur la formation des anneaux, c'est Robin Canup, l'auteur, dans un article publié en 2010 par Nature, et que j'ai eu l'honneur de commenter avec Sébastien Charnoz. L'étalement des anneaux et leur contrôle par leur viscosité, c'est le travail de thèse de Julien Salmon, qui était l'étudiant de Sébastien Charnoz, et j'ai travaillé avec eux, ça a été publié dans Icarus l'année dernière. Et la formation des satellites à partir de l'étalement des anneaux, ça a été publié par Sébastien Charnoz, Julien Salmon et moi-même dans Nature en 2010, et plus récemment, on a étendu le modèle avec donc Sébastien Charnoz, moi-même et une dizaine d'autres co-auteurs, pour étendre ce modèle jusqu'à Rhéa. Et il y a encore des travaux en cours et en préparation. Je pense qu'il y aura bientôt un article de Sébastien et moi pour le côté théorique et calculatoire du modèle. Quelques références bibliographiques grand public maintenant, si ça vous intéresse. Il y a eu un article consacré à ce modèle dans Ciel et Espace numéro 483 de août 2010. Et puis un autre aussi dans Science et Vie numéro 1123 d'avril 2011. Je termine sur cette superbe image de Saturne qui nous a été envoyée par la sonde Cassini, qui est en fait une éclipse de soleil vue depuis Saturne. Ici, la sonde Cassini est dans l'ombre de Saturne, dans le cône d'ombre de Saturne, derrière le soleil, donc le soleil est là derrière. Et les anneaux sont donc éclairés, on voit les anneaux à travers, éclairés à travers eux. Un peu comme un rideau éclairé par le soleil, on le voit briller quand il est proche du soleil. Et vous voyez, c'est absolument fabuleux cette image, il y a tellement de choses à voir. Par exemple, que les anneaux eux-mêmes éclairent Saturne. Et on voit là le globe de Saturne qui est éclairé. Alors que s'il n'y avait pas les anneaux, ça serait tout noir. Comme la Lune, lors d'une éclipse totale de soleil, est toute noire. On voit très bien l'anneau E, cet anneau diffus, là, autour de Saturne. Et, alors si je ne me trompe pas, le petit point ici, c'est Encelade. Donc Encelade est au cœur de l'anneau E, en train de cracher de la neige avec ses canons et de créer cette structure diffuse. Et puis il y a évidemment des étoiles de fond, des satellites un peu partout, et il y a ce petit point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui se trouve ici donc à l'extérieur des anneaux. C'est la Terre vue depuis Saturne. C'est un petit point juste à côté du Soleil. Puisque Saturne est à 10 unités astronomiques du Soleil, la Terre tourne autour du Soleil sur seulement une orbite de rayon 1 unité astronomique, donc elle est toujours à côté du Soleil. Et quand on cache le Soleil par Saturne, on voit la Terre à côté. Je vous remercie.
C'était Aurélien Crida, maître de conférence à l'Université de Nice Sophia Antipolis et à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il nous livrait une nouvelle vision du système saturnien au cours d'une communication réalisée au Bureau des Longitudes. Nous vous proposons de rester à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Académie dans les émissions en colloque rubrique Science. Je vous rappelle que ces conférences sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur leur site www.bureau-des-longitudes.fr.